Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Daniel Tambizoni.
À la une de ce journal matin sur Radio Kapi, une nouvelle plainte contre le général John Numbi dans l'affaire Tchebeya. Il s'agit de la plainte pour recel des malfaiteurs déposée par les avocats des parties civiles, les parties civiles qui insistent pour obtenir la réouverture du procès. Il n'y a quasiment pas d'école dans certains villages du secteur de Loufou dans le Congo central. Celles qui existent sont éloignées des élèves. Aussi, les routes d'accès sont très dégradées. Conséquence, les enfants de Loufou ne vont plus à l'école. Grande désolation pour le gouverneur du Kassai suite à l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kassai. Ce pont permettait aux provinces du centre du pays de s'approvisionner à partir de Kinshasa. Le gouverneur du Kassai parle d'une accumulation de causes à la base de cet accident, dont le passage de camions à fort tonnage surchargé et la vétusté de l'ouvrage construit depuis avant la colonisation. Vous écouterez le gouverneur, l'invité de ce journal dans quelques instants. Et voilà pour les titres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Une nouvelle plainte complémentaire contre le général John Numbi pour recel des malfaiteurs dans l'affaire du double assassinat de Floribert Tchebeya et de Fidel Bazana. L'annonce en est faite par les avocats des parties civiles qui réclament la réouverture du procès Tchebeya et Bazana, anciens défenseurs des droits de l'homme assassiné depuis 10 ans. Au cours d'une conférence de presse animée hier ici à Kinshasa, les avocats des parties civiles, les veuves de ces deux anciens militants des droits de l'homme ainsi que la FIDH qui intervenait à depuis l'étranger par visioconférence, ont invité la justice congolaise non seulement à rouvrir le procès, mais aussi à arrêter John Numbi et faciliter le retour sécurisé au pays d'un témoin clé, le policier fugitif Paul Milambwe. Ils ont aussi insisté pour que soit déféré le policier Christian Ngoï Kenga Kenga devant la haute cour militaire. Selon les parties civiles, la détention de ce policier à la prison militaire de Ndolo constitue un atout majeur pour ce procès. L'avocat Peter Ngomo le dit à Jeff Ngoï.
Contre général John Numbi. Parce que Christian a été bel et bien condamné ici. Mais John Numbi l'a gardé en secret à Lubumbashi. Christian a étudié à Lubumbashi. Il n'était pas seul, il était avec les autres policiers avec qui ils avaient fui de Kinshasa jusque-là. C'est ainsi que nous nous sommes décidés de déposer une plainte complémentaire contre lui pour recel des malfaiteurs. Nous sommes en mesure de démonter tout ce que nous allons mettre à sa charge. Aujourd'hui, les signaux que nous apprenons de Paul Milambwe qu'il est disposé à rentrer. Maintenant, il faudrait qu'on puisse peut-être l'approcher ou approcher les autorités belges là où il est pour savoir dans quelles conditions il peut rentrer ici parce que je ne pense pas qu'il puisse rentrer sous n'importe quelle condition. Il faudrait qu'on étudie, qu'on pose toutes les questions par rapport à sa sécurité et autres. Parce que nous estimons également, nous en tant qu'avocats des parties civiles, que c'est le seul qui peut mettre Christian KO parce qu'il a vécu avec lui. Il connaît tout ce que Christian a commis comme crime et autres. Et si tous les jours où Tchebeya avait été appréhendé au niveau de l'inspection générale de la police, donc Paul Milambwe était un témoin clé également pour nous.
Le bilan des 18 années de gouvernance sous Joseph Kabila est globalement positif. C'est André Alain Atundu, communicant du Front commun pour le Congo, qui le dit. En moins de 2 ans, a-t-il dit aux journalistes hier, il est déplorable de constater que le leadership incarné par Félix-Antoine Tshisekedi ait réussi l'exploit de dilapider le patrimoine social et le capital de gouvernabilité de l'État. André Alain Atundu, dans cet extrait sélectionné pour nous par Paul Matendo.
La bonne gouvernance doit intégrer tous les paramètres qui contribuent à la prospérité nationale, notamment le climat des affaires, la paix sociale, une justice équitable et non traumatisante, le respect des lois de la République et des accords politiques. Il est déplorable qu'à moins de 2 ans, le leadership national, incarné par le président Tshisekedi, ait réussi l'exploit de dilapider allègrement le patrimoine social et le capital de gouvernabilité de l'État sur le plan financier. Les réserves de change ont fondu comme beurre au soleil. Sur le plan économique, la certitude politique, les tracasseries de toutes sortes. Par ailleurs, la gratuité de l'enseignement tant vanté apparaît comme un véritable leurre au point de déverser enseignants et élèves simultanément dans la rue. Et que dire de ceux de moutons dont les annonces répétées de l'inauguration ressemblent à une longue histoire sans fin.
Quant à la participation du FCC aux consultations initiées par le chef de l'État, André Alain Atundu dit que sa plateforme politique s'exprimera au moment opportun. Dans le territoire de Beni, la société civile de la chefferie de Ouattalinga interpelle le gouvernement sur la situation des élèves de cette entité avec des infrastructures détruites, des enseignants non motivés, les parents d'élèves en difficulté à cause de l'insécurité. Les élèves, qu'ils soient du réseau primaire ou secondaire, n'ont pas la possibilité d'étudier dans les bonnes conditions. La société civile locale demande au gouvernement et ses partenaires du domaine de songer à l'éducation de ses enfants. Marc Marofimbo pour plus de détails.
La société civile de Ouattalinga en territoire de Beni indique que plusieurs écoles de cette entité, primaire comme secondaire, ont ouvert leurs portes le 12 octobre. Malheureusement, la majorité des écoles n'ont pas d'infrastructure parce que détruites par les rebelles ougandais de l'EDF dans la région. David Mouaze, président de la société civile dans ce secteur, précise que dans plusieurs localités de ce secteur, les écoles sont soit sans toiture ou sans pupitre. La plupart des documents scolaires ont été emportés ou pillés par ces rebelles. La société civile indique que la plupart des enseignants qui se débrouillent comme ils peuvent sont des nouvelles unités et ces derniers n'ont jamais touché une quelconque prime du gouvernement à part la collation des parents. Elle ajoute également que du fait de l'insécurité, plusieurs élèves se sont déplacés à Nobili, à plus ou moins 9 km de Kamango, pour pouvoir aller à l'école le temps que la calmie s'installe. David Mouaze demande donc au gouvernement de renforcer la sécurité dans cette région pour que les élèves puissent étudier dans la quiétude. Il demande également aux partenaires du gouvernement du domaine de l'éducation de renforcer la fourniture scolaire des écoles du secteur de Ouattalinga dont les effets scolaires ont été pillés ou emportés par les EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Situation similaire dans le Congo central. Les villages de trois groupements du secteur de Loufou manquent d'école. Conséquence, les enfants en âge de scolarité vivant dans ces villages ne vont pas à l'école. Le chef de secteur de Loufou, Jacquemin Mbenza, reconnaît que non seulement sa juridiction ne compte que très peu d'écoles, mais celles-ci sont éloignées des villages. À cela s'ajoute la dégradation des routes, ce qui rend l'accès difficile à de nombreux élèves. Le point avec vous, Nana Plurich Mambou.
Jacquemin Mbenza, chef du secteur de Loufou, a confirmé ses manques d'écoles dans sa juridiction.
Et tous les groupements, avec 12 villages, n'ont qu'une école. Et une école très misérable, qui ne répond même pas aux conditions d'une école moderne. Une école primaire complète, n'a que 3 salles, mais les classes sont toujours bombées. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants n'étudient pas, parce que les enfants, à ce jour, doivent traverser 5, 7, 8, 10 kilomètres, il y a une difficulté d'école.
Le constat est fait dans les villages Lungu, situés dans le groupement Sanda et Vivi. La plupart d'enfants qui ont pourtant atteint l'âge de débuter l'école primaire accompagnent tous les jours leur mère au champ, les écoles étant situées trop loin des villages pour laisser les enfants y aller tout seuls. C'est souvent à l'âge de 9 ans que ces enfants prennent pour la première fois le chemin de l'école. Pour que cette situation change, les autorités doivent construire des écoles, demandent ces chefs de secteur.
Le gouvernement construit une très belle école ici, moderne. Si on pouvait faire ça dans plusieurs milliers, ça serait bien. Nous ajouter quelques écoles ou modifier la construction de certaines écoles de la place pour les moderniser, ça sera un bien pour nous.
Dans l'entretemps, les enfants ayant l'âge un peu avancé traversent une grande rivière par pirogue tous les jours pour aller étudier au village Ngangila, à près de 8 km de leur village. Des Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, les parents d'élèves des écoles publiques plaident pour la reprise effective des cours. La grève des enseignants a bloqué la machine depuis le 13 octobre. Les enseignements n'ont toujours pas commencé. Tout en demandant au gouvernement de s'occuper des enseignants, les parents exhortent les professionnels de la CRE à reprendre en attendant les solutions de Kinshasa. Mais pour le président urbain des enseignants de Bandundu, la grève doit continuer jusqu'à nouvel ordre. Irène Boma.
À Bandunduville, c'est depuis le 13 octobre que les enseignants du secteur public avaient décidé d'aller en grève parce que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par le gouvernement congolais. Et depuis, les cours ne se donnent pas dans les écoles malgré la présence des élèves. Témoignage d'une élève du lycée Maria Goretti.
Nous partons à l'école, mais nous n'étudions même pas. Aujourd'hui, jusqu'à 9h, la porte de l'école est fermée, on n'a pas d'accès et nous sommes rentrés. Vraiment, nous sommes désolés.
Pour certains parents, cette grève est malvenue car les enfants ont d'abord passé plusieurs mois à la maison sans étudier à cause de la pandémie à coronavirus. Tout en appelant à la responsabilité des enseignants et du gouvernement congolais, ses parents plaident pour la reprise des cours.
Après le coronavirus, les enfants ont déjà un retard aux études et maintenant qu'ils veulent avancer, directement les enseignants sont en grève. Je suis en train de leur demander si possible de reprendre d'abord les cours et les solutions pourront venir après. Mais aussi je demande à l'État congolais de prendre en compte les revendications des enseignants afin de trouver une solution adéquate.
Joint à ce sujet, Fitil Mbeyi, président urbain du syndicat des enseignants de Bandundu, indique que la grève continue jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, il a fait savoir qu'une réunion est prévue le samedi prochain pour l'évaluation de la dite grève. Irène Boma, Bandunduville Radio, Okapi.
Le centre de santé Vidjana, situé dans la commune de Lingwala, Issé-Kinshasa, dénonce la tentative de spoliation de l'espace qu'il abrite par des privés. Le médecin directeur de ce centre, le Dr Wambanis, l'a fait savoir mercredi à Radio Kapi. Les responsables de ce centre ont été convoqués au parquet général près la cour de cassation pour présenter les titres de propriété, alors que le centre Vidjana est une propriété de l'État congolais. Dr Wamba lance un plaidoyer auprès du chef de l'État et des autres instances du pays. Il le dit à Jean-Pierre Elali Coco.
Que cet hôpital a été construit en 1953, vous imaginez. Et une personne vient surgir en 1997 pour dire que c'est son parcelle. Donc c'est vraiment un sérieux problème.
Et donc vous dites que vous avez été convoqué?
Oui, nous avons été convoqués au niveau du parquet général près de la cour de cassation, dans les bureaux du procureur général, pour une confrontation. Malheureusement, on a ajourné ça parce qu'on ne connaissait pas au fait le motif de l'invitation. On devait se préparer pour amener les éléments des preuve que l'hôpital appartient à l'État. Et on nous demande, est-ce que vous avez les titres? Est-ce que vous pouvez demander les titres à l'hôpital général de référence de Kinshasa? Vous pouvez demander un titre aux cliniques universitaires de Kinshasa? Les de l'État n'ont pas de titres parce que ça appartient à l'État. Donc c'est des sérieux problèmes parce qu'on a eu à tuer une personne à cause de ça. Et on vient construire en force et puis on casse. Il y a raison pour laquelle nous voulons faire les plaidoyers auprès des politiciens, bien sûr, et auprès du président de la République pour que nous puissions trouver solution à ces problèmes.
Les droits de la jeune fille pendant et après le Covid-19 étaient au centre de la journée d'échange organisée à Bukavu hier jeudi par l'ONG American Catholic Relief Resource Service, CRS Sud Kivu. C'était à l'occasion de la journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Cette journée d'échange a été organisée dans le cadre du projet de l'USAID pour le développement intégré des jeunes. Rachel Kisembangu nous en fait le point.
Les filles ont des droits, défendons-les pendant et après Covid. Tel est le thème développé tout au long de cette journée d'échange avec quelques filles de Bukavu. Selon Mamie Mufolo, spécialiste en genre au CRS, les filles ont été les plus vulnérables pendant le confinement dû à la Covid-19 et qu'il faut avoir un œil particulier sur leur encadrement afin que leurs droits soient portés à la connaissance de tous.
Les filles ont plusieurs droits. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, à la santé, à une libre expression, d'être autonome, de faire un choix libre de métier, les droits à la protection, au repos, au loisir. La pandémie est venue maintenant exacerber tous ces problèmes qui pesaient sur la fille. Les filles ont été obligées de rester à la maison et il y a eu beaucoup de violences sur les filles dans la communauté. Voilà pourquoi on a pensé défendre les droits des filles parce que la communauté doit avoir une vigilance sur la situation des filles pour voir est-ce que leurs droits sont respectés.
Chance Kayumba, participante à cette activité, affirme que cet échange lui a été bénéfique du fait qu'elle a appris ce que sont réellement ses droits et comment les défendre pendant la pandémie à Covid. Signalons que cette activité s'est déroulée simultanément à Bukavu et dans trois territoires du Sud Kivu, à savoir Kabare, Kaleye et Walung. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Depuis le sel mardi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete de My Gold Rêve, c'est l'inquiétude qui gagne ceux qui y avaient déposé leurs avoirs. My Gold Rêve est une structure financière qui se présente comme étant une banque d'investissement en ligne, mais quelques-uns se montrent encore confiants, affirmant que les opérations se poursuivent en ligne.
Actualité internationale.
L'Organisation internationale pour les migrations OIM a indiqué hier jeudi qu'au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants la semaine dernière au large du Sénégal. Il s'agit là de la pire catastrophe de ce type en 2020. Selon l'OIM, le bateau transportait environ 200 personnes. Les autorités sénégalaises avaient rapporté un bilan d'au moins 10 morts pour une soixantaine de personnes secourues. Le 28 octobre, 29 000 électeurs étaient appelés aux urnes en Tanzanie pour les élections présidentielles, législatives et locales. Le président John Magufuli est candidat à un second mandat de 5 ans, alors que les résultats ont commencé à être publiés par la commission électorale hier jeudi. L'opposition a affirmé qu'elle ne les reconnaissait pas.
L'invité.
Le gouverneur Dieudonné Piémé se désole de l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kassai et qui permettait aux provinces du centre du pays de s'approvisionner par voie routière à partir de Kinshasa. Le gouverneur du Kassai parle d'une accumulation de causes à la base de cet accident, dont le passage des camions lourdement chargés et surchargés même, associé à la vétusté de l'ouvrage construit depuis avant la colonisation. On écoute le gouverneur Dieudonné Piémé dans cet entretien avec Joël Bofengo.
Bonjour Monsieur le Gouverneur, le pont Kassai s'est effondré vendredi. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les circonstances de cet accident?
Les circonstances immédiates de l'accident sont liées à une surcharge. Le pont a été sollicité de manière intensive depuis quelques jours, sinon depuis quelques mois, suite aux travaux de la construction de la nationale numéro 1 dans sa partie Chikapa-Kamoïcha. Le pont a été très très souvent sollicité suite au déplacement des engins lourds. Le jour de l'événement, nous avions une grue qui était en train de traverser, qui est passée juste avant le camion qui a été pris au piège. Et donc, la traversée de ces deux engins a été quasi simultanée. Je pense que le pont a été largement sollicité au-dessus de sa capacité de résistance et ceci a donné lieu à cet effondrement.
Y a-t-il eu des morts?
Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons enregistré aucun décès ni disparu. Évidemment, nous avons lancé un appel aux familles qui ont enregistré des personnes disparues pour qu'ils viennent se faire enregistrer, soit dans leur commune, soit à la mairie de la ville.
Monsieur le gouverneur, vous le disiez tout à l'heure, le pont est délabré depuis fort longtemps. Un temps, vous avez évoqué sa réhabilitation, mais pourquoi continue-t-on à circuler dessus si tout le monde s'est rendu plus ou moins compte que le pont était très vétuste?
Non, nous savons qu'il était vétuste, mais nous savions également en même temps qu'il pouvait encore supporter un certain tonnage. C'est ainsi que d'ailleurs, avant l'entrée dans le pont. Il y a des indications qui permettent aux chauffeurs et aux transporteurs d'être informés sur le tonnage qu'il ne fallait pas dépasser. Mais malheureusement, le véhicule qui était pris au piège à l'intérieur avait un tonnage supérieur à celui qui pouvait être supporté par le pont, d'une part, et d'autre part, la grue qui était également sur le pont et qui a échappé juste de justesse avant l'effondrement du pont, aussi était de tonnage supérieur. C'est pour ça que je dis que les causes immédiates pourraient être celles-là. Mais bon, évidemment, vous savez que plusieurs fois, nous avons déjà lancé des appels aux conducteurs à respecter ce genre de mesures. Mais bon, généralement, avec la complicité de certains agents véreux que nous plaçons pour surveiller ce genre de choses, contre quelques billets, violent les instructions que nous donnons.
Ce pont est d'une grande importance à la fois pour la ville de Chikapa, mais aussi pour toute la région. Est-ce que vous avez pris des dispositions temporaires pour faciliter quand même la circulation des personnes et de biens pendant que le pont est dans cet état-là?
L'importance de ce pont n'a pas qu'un caractère économique.
Oui.
Il a aussi un caractère culturel. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai grandi dans cette ville. J'ai vu ce pont depuis que je suis grand. J'ai utilisé ce pont pour aller à l'école. J'ai utilisé ce pont pour aller à Kananga. J'ai utilisé ce pont pour observer la beauté de la rivière Kassai. Sur le plan culturel et sur le plan même de l'environnement, c'est un ouvrage très important. C'est pour ça que je vous dis que c'est une catastrophe pour la ville de Chikapa et toute la province du Kassai. Et aussi, sur le plan économique, comme vous le dites, c'est pratiquement le point de jonction entre l'Est et l'Ouest de la République. Kananga ne pourra plus être approvisionné à partir par véhicule, pas à partir de Kinshasa. Bushima est la même chose. Pour nous, c'est absolument capital que nous puissions rétablir la circulation sur la rivière. Et donc, nous avons de manière urgente décidé de prendre un bac qui était destiné à la cité de Kamonya, qui est en effort de transport et qui se trouve dans les environs de la ville de Chikapa, pour le jeter sur la rivière afin de permettre que les véhicules du tonnage correspondant puissent traverser. Très rapidement, nous pourrons avoir la solution pour la traversée des véhicules et des engins. S'agissant des personnes, le gouvernement provincial a décidé de mettre en place une embarcation d'une capacité de 200 personnes pour organiser les traversées que nous pensons pour les élèves gratuite. Mais bon, pour les travailleurs, nous allons voir dans quelle mesure nous allons solliciter leur petite contrainte.
Monsieur le gouverneur, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Dieudonné Piémé, gouverneur de la province du Kasaï, l'invité de la rédaction ce matin, répondait aux questions de Joël Bofengo. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal matin sur Radio Capi. Merci de le retrouver sur www.radiocapi.net.